Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci d'être présent pour cette rencontre avec Benoît Peters et François Skuyten. Il faut bien quand même commencer par présenter. Alors, bon, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin, mais c'est la coutume, donc allons-y. Est-ce qu'on le fait ? C'est pas sûr, hein. On n'a pas le temps.
Tu résumes ?
On résume. Alors, Benoît Peters, c'est scénariste, romancier, réalisateur. Tu as travaillé aussi, tu as écrit des monographies sur les... sur des réalisateurs, tu as travaillé avec des réalisateurs, avec Raoul Ruiz, etc. Tu as écrit 2 bouquins de cuisine, on va d'ailleurs en parler. François, évidemment, tu es principalement connu pour la série des Cités Obscures, mais pas seulement. En fait, tu fais aussi également beaucoup de direction artistique, d'illustration. Tu as travaillé pour le film Taxandria de Raoul Servet en tant que concepteur graphique et même peut-être on va dire davantage. As-tu quelque chose à ajouter même ?
C'est bien comme voilà. Ça, on va pas.
Je vais commencer par une question un peu provocatrice. Comment cette série des Cités Obscures a-t-elle connu si vite un grand succès ? Ce que je veux dire, c'est que les thèmes sont recherchés, complexes, nécessitent une certaine culture et une attention de lecture de la part du lecteur. Le dessin est très esthétique, on n'est pas dans le petit Mickey, comme on avait l'habitude de qualifier la bande dessinée à un moment. Est-ce que c'est l'époque, c'est-à-dire une certaine forme d'âge d'or des années 80, au cours desquelles on pouvait tenter des expériences nouvelles qui a pu aider à ce succès, ou justement le fait que la sortie sorte de l'ordinaire et que ça ait suscité une curiosité?
C'est difficile de répondre à une question celle-là, mais il est certain qu'on est arrivé à un moment propice. François avait commencé dans Métal Hurlant. Moi, je me souviens surtout du choc du premier numéro de À suivre, que j'avais lu avec émerveillement et passion. Moi qui venais plutôt d'un horizon littéraire, je m'étais dit, mais au fond, on n'est pas si loin. Et puis, on s'est retrouvés, on était des amis d'enfance. On a proposé la première histoire, Les Murailles de Samaris. Voir une image, on l'a proposé à suivre et les choses se sont enclenchées. Il est certain que les thématiques qu'on a traitées étaient celles qui nous parlaient le plus à tous les deux. François est fils d'architecte, on est des enfants des villes et heureusement, je dirais, ces thématiques ont résonné pour beaucoup de lecteurs qui avaient grandi avec la bande dessinée, qui avaient peut-être envie d'évoluer avec elle.
Les murailles ont été aussi récompensées à Angoulême.
Oui, mais en fait, on a bénéficié, c'est toujours un petit peu des alignements de planètes, on ne s'en rend pas compte en fait quand on est dedans. Mais avec le recul, il se passait qu'il y avait des journaux qui se créaient. Alors, c'est extraordinaire d'être dans un train qui part. Métal Hurlant, L'Équipe, tout ce qu'il y avait autour de ce journal à suivre. Vous avez comme des leaders de ces journaux, Moebius, Dreuillet, et Métal Hurlant à suivre, c'était Tardy, et surtout Pratt, qui était vraiment un peu le capitaine de vaisseau. Mais vous voyez sortir ici même, vous voyez Silence, vous voyez. C'est extraordinairement motivant d'être dans ces trains qui partent.
C'était le début des années 80, qui était particulièrement dynamique.
Particulièrement dynamique, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille à ce moment-là très fort pour le journal. Il ne faut pas oublier qu'il y a 300 nouveautés par an à ce moment-là. En bande
300
dessinée.
Albums.
300
simplement.
Albums par an.
Et l'essentiel, c'est les gens.
Rappelez combien il y en a aujourd'hui.
6000.
Voilà.
Voilà, donc ça a un peu changé. Un passionné de bande dessinée pouvait à l'époque se faire une idée de tout ce qui sortait. Évidemment, aujourd'hui, même les critiques spécialisées et les libraires n'ont pas le temps. Donc c'est un esprit tout à fait différent. Les auteurs se connaissaient d'un journal à l'autre, d'une maison à l'autre. Il y avait des échanges.
Il y avait en même temps des familles. Moi, j'étais un peu un transfuge, donc parfois un peu considéré un peu bizarre. Mais on était métal, et métal, c'était une identité, c'était une image de la science-fiction. On est ici aux Utopiales, et métal a été un formidable, une formidable rencontre entre cinéastes. On voyait passer Ridley Scott, on voyait des jeunes réalisateurs, on voyait des chanteurs, et Kent qui passait là. Donc c'était un lieu de rencontre, de croisement, et à suivre, c'était autre chose, c'était un peu qu'une ambition plus littéraire. Et donc c'était quand même extraordinaire d'avoir ces machines à rêver.
Il y a un phénomène qui m'a toujours surpris aussi, c'est que bon, quand on regarde la première édition des Murailles de Saint-Maries, c'est un album relativement classique dans son format, le grammage du papier, etc. Par contre, les choses changent assez rapidement et on se retrouve avec de l'utilisation d'encre assez chère, des couvertures extrêmement épaisses, un grammage papier plutôt conséquent. Certains albums, notamment si on comprend les hors-série, pèsent plus d'un kilo. J'ai vérifié.
Oui, pas beaucoup.
Oui, pas beaucoup, mais ça, voilà, c'est un petit poil au-dessus.
Mais la caractéristique première, c'était pas ça. C'était la volonté d'avoir des albums qui développent un même monde sans se laisser enfermer par un même personnage ou par une même ville. L'envie, c'était que chaque album remette un peu les compteurs à zéro. Et donc, quand on a fait le premier album, effectivement, on était cadré. Oui. On était des débutants, il fallait montrer patte blanche. Et puis, pour La Fièvre d'Urbicand, le deuxième album, on s'est rendu compte tout de suite que le cadre d'un 48 pages cartonné couleur, qui ne s'appelait pas encore 48cc à l'époque, une appellation contrôlée Jean-Christophe Menu, que ça n'allait pas fonctionner. Et donc, on nous a dit, ah ben, si vous voulez faire plus long, il faut faire noir et blanc. Mais et donc, on commençait une série bizarre, puisque c'était deux albums qui appartenaient au même ensemble et qui paraissaient dans deux collections différentes. Il y avait à l'époque l'album classique et puis la collection roman à suivre, où étaient parus Tardy, Gomes et d'autres, bientôt Rochette avec le transpersonnage. Voilà, donc c'était des mondes assez séparés. Et à chaque fois, on a essayé de faire un objet qui nous convienne et petit à petit, ils se sont rassemblés dans une présentation plus unifiée.
Mais souvent, on nous prête une conscience et une vision qu'en réalité, on n'a pas eue. On était dans
le fruit du hasard.
Non, on était dans une dynamique, dans un sentiment de raconter les histoires qui nous semblaient les plus évidentes, les plus nécessaires. Mais on n'a pas eu tout de suite l'idée de faire je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce n'est pas une série, c'est pas
un ensemble ouvert qui ne peut pas avoir de fin et qu'on peut aborder par n'importe quelle porte. Au fond, c'est un territoire, les cités obscures, et donc de même qu'on peut entrer dans un pays par telle ou telle ville, on peut entrer dans les cités obscures par n'importe quel album. Ils sont relativement indépendants, avec des relations qui peuvent se révéler si on en lit plusieurs. Mais chaque album est une unité.
Il y a une crédibilité, finalement, des cités obscures. Le fait que ce soit justement des volumes qui représentent une cité, notamment, dans certains cas, donne une crédibilité à soi, cette crédibilité, davantage que si ça avait été, finalement, des albums plus de facture plus classique.
On n'a pas vraiment réfléchi comme ça.
On non, a réfléchi... A posteriori.
Je ne sais pas, je me souviens qu'après les Murailles de Saint-Maries, ce François, qui avait passé énormément de temps sur les couleurs, dans une technique classique qui était celle des bleus de coloriage, a dit, bon, mais voilà, la couleur, je ne pourrais pas la développer sur un récit long. À d'autres moments, il avait vraiment envie de revenir à la couleur. Quand on a fait un livre comme L'Archiviste, ou plus tard Le Guide des Cités, on a employé une forme plus... Mais pour nous, il n'y a pas d'album qui serait pleinement dans la série ou d'album hors série. La bande dessinée est un des langages, c'est le langage privilégié, mais ce n'est pas du tout un automatisme, une obligation.
Et même, j'ai l'impression qu'une station de métro comme Arrêt Métier à Paris, c'est un peu un morceau des cités obscures. Et on a fait des...
Ou c'est la Bruxelles.
Oui, c'est ça. Ou le documentaire fiction, le dossier B, c'est un peu un morceau des cités obscures. On n'arrive pas à donner, en fait, de frontières. On a un plaisir à raconter des histoires avec des images et en étant conscient que quelquefois, on ne sait plus très bien où on se situe. Mais le plaisir de décrire des mondes et de ciseler, de creuser dans ces mondes des personnages et des situations, et c'est ce qui nous motive, en fait.
Où en est d'ailleurs la série à l'heure actuelle? Parce qu'à un moment, tu avais annoncé que tu en fait, arrêtais la BD.
Oui.
En même temps, il y a un nouvel album qui vient de sortir. Donc,
qui n'est pas de la bande dessinée.
Voilà, c'est ça.
À proprement parler.
Au sens classique, oui.
Au sens classique. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une conversation que j'ai eue qui peut sembler un peu bizarre d'avoir dit j'arrête la bande dessinée. En fait, je ne suis pas revenu sur ce que j'ai dit. Ça fait 5 ans maintenant que j'avais sorti ça. Simplement.
Après le dernier Pharaon.
Oui, mais les gens ont confondu. Ils croyaient que j'allais rentrer dans une retraite ou dans un EHPAD, je ne sais pas. Mais j'ai toujours énormément de plaisir à dessiner. J'espère que comme Winsor McCay, le jour où Winsor McCay a arrêté de dessiner, il est mort le soir même. Et je trouve que c'est une destinée magnifique. Ça montre le lien extraordinaire que cet homme avait avec son dessin. C'était sa vie. Et j'espère être dans ses traces. Mais par contre, la forme bande dessinée est une forme tellement extraordinaire qu'on aime tous les deux, Benoît et moi, beaucoup. Et d'ailleurs, les conférences du Collège de France de Benoît sur ce domaine sont formidables. Mais il faut en même temps une certaine énergie. Il faut avoir le sentiment que vous allez vous étonner, vous bousculer à chaque album. Quand peut-être cette petite flamme commence à vaciller, il faut être conscient qu'il ne faut pas peut-être faire le livre de trop en bande dessinée.
Ce qui sous-entend que l'on peut partir par contre sur des albums davantage d'illustrations graphiques, oui, ou plus expérimentaux qui incluent de la réalité augmentée par exemple.
Oui. Et qui peut-être un jour la flamme se réveillera plus solide que jamais.
En tout cas, le retour du capitaine Nemo fait pleinement partie du cycle des cités obscures, si on emploie ce mot de cycle qui n'est pas idéal mais peut-être meilleur qu'un autre. Il fait pleinement partie de cet ensemble et pourtant, effectivement, il ne fait que flirter avec la bande dessinée et pour nous, le travail n'est pas fondamentalement différent. La seule chose, c'est que dans le cas d'un album de bande dessinée, on construit quand même d'abord les grandes lignes du scénario, puis je me mets à écrire et puis on travaille le storyboard des chapitres. Ici, pour cet album comme pour d'autres, tout est parti des dessins. François dessinait en toute liberté de grandes illustrations autour d'un projet de sculpture qui doit prendre place à Amiens pour rendre hommage à Jules Verne. Et ces dessins s'accumulant, racontant des fragments d'histoire, j'ai eu envie de m'en emparer et de commencer à écrire. À partir du début de texte et des échanges qu'on avait eus, François a ajouté d'autres dessins, les pages de gauche se sont remplies peu à peu, et voilà le livre qui a commencé à se composer, mais quand même de manière très inhabituelle. Et évidemment, chez Jules Verne, c'était tout à fait différent. Jules Verne terminait son roman et étudiait avec son éditeur Hetzel la répartition des images, et des illustrateurs de grand talent choisissaient des moments forts, une vingtaine d'images ou une trentaine d'images pour 500 ou 600 pages de texte. Ici, la proportion est absolument différente et l'image a été première, même si peut-être au feuilletage, on retrouve ou on cherche à retrouver quelque chose de la magie de ces magnifiques ouvrages conçus dans la fin du 19e siècle.
De toute façon, après 40 ans de collaboration, il y a une synergie qui
plus même. On a commencé à 12 ans.
Mais oui.
Oui, mais c'était, on était dans la même classe et on a fait un journal ensemble qui s'appelait Go et on y mettait des hypothèses à peu près dans la même logique, et on travaillait exactement de la même façon à 12 ans que maintenant.
On s'occupait déjà de l'impression. La fonction que nous avons lâchée depuis, c'est la commercialisation, qui dans la cour de récréation n'avait pas un immense succès. Oui. Mais enfin, voilà, maintenant on a des gens qui nous aident
vous arriviez
à faire voyager
pas
les livres.
À le vendre contre des billes ou des bons becs ?
Non, on avait surtout un débat technique entre nous, François et moi, c'est qu'il y avait des numéros qui étaient réalisés avec des carbones qui permettaient d'intégrer un petit peu de couleur, quelques traits en couleur,
c'était
et d'autres avec des stencils. Et les stencils se déchiraient après un certain nombre d'exemplaires. Donc on avait recours à une technique ou à l'autre.
C'était du pochoir, en fait, c'est ça.
Jusqu'au jour où un de nos articles annonçant les menaces qui pesaient sur le collège, construit juste à côté d'un réservoir de gaz, l'école nous a coupé les vivres, c'est-à-dire coupé l'accès à la copie. Mais déjà, François se battait.
Il y a eu des plaintes des parents d'élèves très inquiets sur l'idée que cette réserve de gaz pourrait éventuellement
menacer le collège.
Oui.
Mais François se battait déjà avec la question de la reproduction des dessins. Et aujourd'hui encore, pour le retour du capitaine Nemo, il est allé 3 fois chez l'imprimeur.
Parce arrêter
que
la machine.
La première fois, il a fait arrêter la machine. Donc voilà, il y a quelque chose qui reste important. Mais qui fait aussi que le résultat principal de notre travail, c'est le livre. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, on donne à l'original une importance extraordinaire. On dit « Ah, l'original, c'est etc. » Mais en réalité, il y a un plaisir de l'original, mais tout cela a quand même été travaillé et réalisé pour un livre, pour aboutir à un livre, et un livre qu'on essaye de concevoir vraiment de la couverture à la quatrième de couverture, en passant par tout ce qui peut le faire, évidemment le choix du papier, la qualité des encres, mais aussi les pages de garde. Enfin, tout cela nous importe profondément et on le pense ensemble.
Oui, le cartonnage, les coffrets, etc.
Plus que jamais aujourd'hui, à l'âge du numérique, se dire que justifier le livre, c'est le justifier par un investissement très fort sur ce qu'il peut donner.
La sensualité du papier, les pages de garde qu'on a beaucoup soignées sur le retour du capitaine Nemo, mais enfin des tas de petits détails, jusqu'à la couleur du fil de lin chez Jim. Enfin, des trucs où vous dites, mais avec quoi il vient ? Et ce sont tous ces petits détails qui donnent peut-être le sentiment au lecteur qu'ils ont un objet précieux, et en restant dans des prix qui sont quand même ceux de la bande dessinée. Donc c'est une espèce d'équation complexe à chaque fois à résoudre, mais c'est en même temps donner, ça montre l'importance qu'on nous accordons et qu'on veut donner au lecteur un objet précieux.
Je reviens sur Nemo. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous, parce que bon, ça c'est assez typique, c'est typiquement une grande figure du 19e siècle, est-ce qu'il n'y a pas chez vous deux une certaine forme de nostalgie ? C'est-à-dire un amour du passé, alors soit par rapport aux références aux gravures, bon, ce qui est vraiment ton cas, du 19e siècle principalement, ou alors parfois même à Jacobs, bon, c'est plus récent, mais il y a notamment souvent avec le choix de couleurs ou certains cadres une influence directe, ou par le jeu des références scénaristiques et littéraires chez toi. Et puis bon, donc le travail sur les maîtres du passé, le présent, et il n'y a pas tant de futur que ça, et les cités semblent dans un temps suspendu, mais qui est quand même rattaché à une certaine image du passé. Donc est-ce que vous avez conscience, est-ce que c'est vraiment volontaire de travailler finalement sur des références culturelles déjà assimilées dans notre culture.
En tout cas, je n'emploierai pas le mot de nostalgie. Je pense qu'il y a un rapport, effectivement, à ce tournant entre le 19e et le 20e siècle, disons une période qui pourrait être 1860-1920, essentiellement, quoique parfois on s'aventure un peu plus loin. Il y a des albums plus clairement futuristes, mais quand on retravaille ces signes, on retravaille sur les racines de la modernité, sur un moment où des inventions se multipliaient, où l'architecture se transformait profondément dans ses matériaux, où les grandes villes apparaissaient en Europe et encore plus aux États-Unis. On a l'impression que interroger ces signes de façon non pas nostalgique mais critique, ça nous raconte quelque chose. Si on prend l'exemple aujourd'hui du retour du capitaine Nemo par exemple, bien sûr il y a la référence vernienne, bien sûr il y a le capitaine Nemo sur lequel on pourra revenir, qui est un personnage fascinant, ambigu, beaucoup plus sombre que la plupart des héros de Jules Verne, mais on n'est pas avec le Nautilus, on est avec le Nautipulpe. Le Nautipulpe qui est un hybride, qui est un croisement entre la machine et l'animal. Et donc là, on rejoint des questions tout à fait contemporaines. Donc il ne s'agirait pas de célébrer une espèce d'âge d'or où les choses étaient plus belles, la société plus équilibrée.
On peut parler de postmodernisme, de réutilisation, relecture.
Oui, en tout cas, je crois que François n'avait pas envie de dessiner littéralement le monde d'aujourd'hui, les voitures d'aujourd'hui, mais de laisser une place assez forte à l'imaginaire, tout en se nourrissant d'innombrables références, mais ce sont des références croisées. Si on prend par exemple la fièvre d'Urbicande, là on en voit une image, la fièvre d'Urbicande qui est une de nos premières histoires, les références peuvent être celles de l'architecture futuriste, de Le Corbusier, de quelques autres, mais en même temps on fait intervenir des éléments absolument incompatibles avec cette période de l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire qu'on fait se cogner des signes, on va prendre des costumes plus anciens, des véhicules par moments plus futuristes et une histoire qui, elle, se développe très très librement. Donc l'idée n'est pas de célébrer, en tout cas, ce qui aurait été d'une façon ou d'une autre une période plus désirable que la nôtre.
Oui, ce qui n'est pas évident.
Mais pour répondre quand même à ta question sur l'effet nostalgique, c'est sûr que les images et les illustrations qui ont accompagné les livres de Jules Verne m'ont fasciné dans mon enfance et continuent à me fasciner. En fait, il y avait une liberté chez ces illustrateurs. Parce que sans doute...
Benet et Rio.
Oui, Absolument. Il ne faisait pas simplement qu'illustrer, d'abord parfois le texte arrivait fort tard, ou je ne sais pas, ou on lui donnait les thèmes, mais il y a une façon de... Les jungles ne sont pas totalement naturelles, elles sont un peu fantastiques. Et ces images restent assez mystérieuses, en fait, par la technique même de la gravure, que j'essaye parfois de rejoindre par une technique de plume, mais il y a... Ces images sont énigmatiques, en fait. Elles prolongent le récit. Elles ne sont pas simplement l'illustration, loin de là. Et puis, il y a cette légende qui vient en dessous. Et tout ça compose, en fait, un objet qui était quand même assez remarquable, assez unique. Sans parler du plat, sans parler des feuilles de soie devant certaines gravures, des effets de couleurs. Ce sont des objets qui ont une modernité et qui résonne encore. C'est pas un hasard si on a tant de collectionneurs de ces livres. Ils ont une capacité de fascination qui reste pour moi troublante.
Ton père est architecte. Tu as, Benoît, commencé par des études de philosophie. Quand on développe l'idée de cité, d'architecture, d'organisation, du coup, politique, sociale, on se retrouve assez rapidement à errer du côté des idées d'utopie et d'anti-utopie. Quels sont vos rapports avec ces deux thèmes cousins, si l'on peut dire ?
Une chose est sûre, quand on a commencé les cités obscures au début des années 80, une certaine idée de l'utopie, notamment architecturale et urbanistique, était encore bien vivace. Et il y avait encore les derniers échos de l'imagerie de l'an 2000 que des revues comme Science et Vie avaient propagé longtemps. Bien sûr, la cité radieuse, la charte d'Athènes, étaient déjà des souvenirs un peu lointains et les premiers discours critiques arrivaient. Nous avons abordé ces thèmes, par exemple dans La fièvre du Bicrande, mais plus métaphoriquement dans La Tour, et dans Bruxelles, qui a inspiré des grands travaux de Bruxelles. Nous avons abordé ces thèmes avec un regard quand même assez critique, c'est-à-dire... une forme de désillusion qui déjà touchait les grandes images de la modernité et bon, l'urbanisme de Le Corbusier, par exemple. Il se trouve qu'à la fin des années 80, à partir de la chute du mur, disons, une certaine idée de l'utopie est tombée. Elle est tombée profondément, elle est tombée si profondément qu'elle donnait même le sentiment d'avoir enterré à tout jamais l'idée d'une vision du futur. Comme si toute vision futuriste était déjà... porteuse de contraintes ou de menaces de totalitarisme. À ce moment-là, on a commencé à changer un petit peu. C'est vrai que d'abord, l'urbanisme est moins présent, mais aussi, on a recommencé à se dire que certaines visions du futur, certaines portes du possible, pour reprendre le titre d'un de nos livres qui ne fait pas partie de la série Les Cités Obscures, certaines portes du possible étaient importantes à ouvrir et d'une certaine façon que nous étions aussi dans nos fictions profondément liés aux transformations du monde autour de nous et bien sûr à nos propres transformations. Donc ça c'est le caractère un peu peut-être étrange d'une série qui a l'air de se situer dans un monde imaginaire, c'est comment avoir une forme de cohérence entre les albums et en même temps comment éviter que ce monde ne se fige et ne devienne un monde complètement détaché des préoccupations de nos lecteurs et des nôtres.
Oui, je crois qu'en fait, très très tôt, on a eu une peur d'être pris dans le système des séries franco-belges qui ont à peu près les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que quand vous créez un personnage, vous l'êtes d'abord pris par l'énergie. Généralement, les personnages, on les crée assez jeunes, dans l'énergie. Là. Et puis, ce personnage rencontre un succès, et c'est un succès qui peut vous dévorer, parce qu'à un moment donné, on va vous dire, mais il faut conserver ce personnage, vous n'allez pas ni le tuer, ni l'arrêter, parce que c'est au moment où il commence à avoir du succès. Et on voyait autour de nous des auteurs qu'on admirait, Franquin et bien d'autres, qui souffraient de ça. Ces personnages les tuaient, ils avaient évolué, ils étaient un autre dessinateur, dans un autre monde, et on leur disait, mais faites Spirou et Fantasio. Et par certains côtés, tout lecteur a envie de ça. tout lecteur a envie de retrouver Blake et Mortimer. Jacob, c'est mort, mais on a envie de retrouver Gaston. Et le Gaston, le plus proche, qui est une erreur pour moi, mais il faudrait laisser Gaston vivre aujourd'hui, et avec un auteur qui l'interpréterait avec le monde d'aujourd'hui. J'aimerais voir Gaston face à Internet, face au téléphone portable, face à un monde comme ça, ce serait passionnant. Ça ne m'intéresse pas de le voir figé dans les années 70.
Mais parce que Franquin, Hergé, Jacob, Stilleux étaient profondément branchés sur le monde autour d'eux. Quand on crée aujourd'hui une nostalgie, presque de faire tourner en boucle une imagerie années 50 ou années 60, c'était exactement aux antipodes de leur vision. Hergé lui-même, qui part vraiment avec les visions naïves des années 20, l'antisoviétisme, le colonialisme, etc., peu à peu essaye de s'ouvrir à d'autres thématiques. Et profondément, les histoires se passent dans un monde impossible, puisque le personnage est à peu près inchangé, dans un monde qui bouge. Et mais ça, pour nous, ça a été une obsession.
Ce qui est remarquable, d'ailleurs, chez Hergé, c'est que, en fait, quand on regarde bien, on ne s'en rend pas compte quand on est gamin, mais quand on regarde bien, après plusieurs lectures, et une fois qu'on a un peu de maturité, les grands albums, disons, on va dire, à partir du 7, 8e ou à peu près, sont liés à l'actualité.
Ils sont toujours liés à l'actualité et il se débat, mais comme beaucoup d'auteurs, dans cette idée à la fois de saisir le monde autour de lui, dans sa contemporanéité, et en même temps de rester cohérent. Et c'était des paradoxes qu'ils ont tous rencontrés et qu'on rencontre peut-être à notre façon.
Mais ce que je veux dire, c'est que par certains côtés, on s'est créé cette radicalité. Chaque livre, un personnage différent, même s'il y a des personnages qui reviennent un peu, mais on s'est créé cette radicalité parce qu'on voyait souffrir aussi certains de nos maîtres qu'on connaissait, qu'on admirait, et on les voyait prisonniers de ça. Et donc, on a agi un peu comme ça, intuitivement, en disant, non, on ne va pas prendre, surtout pas de héros.
Sauf si on le balance dans le gouffre de Rachenbach.
Oui, c'est ça.
Mais en même temps, je crois qu'il y avait cette envie chez François de garder intact le plaisir du dessin. Or, la bande dessinée est aussi une machine à répéter, à redessiner, à répéter parce qu'on reprend effectivement le même personnage, les mêmes personnages album, album après album, mais aussi à redessiner, c'est-à-dire esquisse, crayonner, ancrage, mise en couleur, revenir sans cesse là-dessus. Or, ce qui est important, c'est que ça reste profondément chargé d'énergie graphique, de désir et de plaisir. C'est là où notre collaboration est très importante. Par exemple, on ne verrouille pas un récit avant de commencer à le décider. Il y a un thème, il y a un début de texte, il y a une vague idée de la direction qu'on veut atteindre, de l'horizon, mais en même temps, on avance chapitre par chapitre ou demi-chapitre par demi-chapitre en se laissant énormément de possibilités. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le dessin reste vivant pendant les 2 ans ou 3 ans que va prendre la réalisation d'un album. Et c'est véritablement...
Ne jamais scléroser.
Oui, c'est garder ce désir, cette fragilité, ce risque. Et c'est vrai que parfois... on a l'impression que les choses aboutissent bien, prennent bien leur forme. Dans quelques albums, il nous est peut-être arrivé de laisser trop de portes ouvertes. Mais profondément, on préférait cela à l'idée du scénario en béton.
Et c'est pour ça que peut-être, avec le temps, j'ai jamais autant admiré Franquin d'avoir eu le courage d'arrêter Spirou et Fantasio. À un moment où cette série monte, où il fait presque des chefs-d'œuvre, après QRN et Bravo les Brothers, vous vous dites mais c'est somptueux, il dit j'arrête, c'est extraordinaire d'avoir le courage de faire ça, parce qu'il veut garder le goût du dessin, il sent qu'il est en train de perdre cet émerveillement et ce goût de l'aventure graphique. Et puis il s'est investi sur Gaston qui va arrêter aussi à un moment donné
pour aller vers les idées noires et changer de support, passer à fluide glacial, c'est-à-dire passer vraiment presque de l'autre côté du miroir. Et lui qui a enchanté et donné un rêve de modernité, de voiture d'aujourd'hui, de transistor dans Spirou et Fantasio, tout d'un coup dans les idées noires, alors là c'est pire que Jules Verne, hein, c'est vraiment l'image la plus noire du monde. Et ça, c'est magnifique. Jusque dans les moments où peut-être tout à la fin de sa vie, il se perd un peu. Il se perd en prenant un risque, comme Hergé l'a fait en faisant Tata au Tibet, une histoire sans méchant, en faisant Les bijoux de la Castafiore, une aventure en trompe-l'œil, qui a déconcerté sur le moment et qui a merveilleusement vieilli, comme Jean Giraud quittant Blueberry pour s'engager dans l'aventure Moebius, quittant Pilote pour aller dans Métal. vit profondément et se surprend et garde un dessin qui est en mouvement. Ça, c'est vraiment des choses fondamentales. Chacun le fait à sa façon, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de constance. Mais quand il n'y a plus ce désir-là, alors la bande dessinée se révèle comme une machine à enfermer dans les cases et dans la répétition. Ouais.
Comme je disais tout à l'heure, tu as collaboré à deux ouvrages sur la gastronomie. Il y a quelques jours, en travaillant sur la table ronde, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ne fait-il pas un livre de les recettes des cités obscures, enfin la gastronomie des cités obscures, comme on a pu le faire pour certains studios, certains films ou certains univers?
Oui, dans le guide des cités, il y a quelques échos là-dessus, mais... Voilà, il faut que chaque livre tombe avec nécessité. Je suis pas sûr que dessiner la nourriture, c'est pas facile. Je m'étais beaucoup intéressé à ce problème-là en parlant avec Jiro Taniguchi, le grand auteur japonais de L'homme qui marche, de Quartier lointain, du sommet
sur lequel tu as écrit une biographie.
On a fait un livre d'entretien ensemble et il a fait Le gourmet solitaire. Et je me souviens qu'on avait eu de grandes discussions sur la difficulté de représenter les plats et notamment de représenter les plats en noir et blanc. Il disait oui, mais moi je cherche plus le sentiment du lieu, la sensation de ce gourmet qui se perd, que véritablement le plat. Quand j'ai travaillé avec Aurélia Horita pour Comme un chef, on a recouru à la couleur uniquement pour la représentation des plats. Et puis comme un livre peut conduire d'une aventure à l'autre, c'est vrai que le fait d'avoir fait cette bande dessinée où je révélais ma passion de jeune homme pour la cuisine m'a permis de faire un livre d'entretien avec un des plus grands cuisiniers français, Michel Guérard, et donc de vivre une aventure. Et ça, c'est une chose que j'adore, je crois que François adore aussi, c'est les rencontres que chaque livre peut permettre. Ça peut être avec un musicien, ça peut être avec un sculpteur, ça peut être avec un cinéaste. Et il y a, je dirais presque par-delà le contenu des livres, parfois l'engagement dans une aventure amicale ou dans une rencontre qui nous transforme et qui nous emmène sur un terrain qu'on n'aurait jamais imaginé à nos débuts.
Justement, je voulais parler de la bande-son, parce qu'on parle assez rarement finalement du disque. L'affaire des ombres avec une musique de Bruno Lothar qui est liée à l'album. Comment s'est passée cette collaboration? Quelle est la genèse du disque et comment s'est passée la collaboration l'affaire des ombres?
Oh là là, mais Bruno est un ami et c'est vrai qu'on a commencé maintenant il y a très longtemps. On a plein de projets encore. En fait, c'est quelqu'un qui est un musicien, qui est un producteur, qui dirige le festival Ars Musica à Bruxelles, qui est un musicien français mais qui voyage pas mal. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il aime l'image, il aime se nourrir de l'image. Et son travail sonore, son travail musical, c'est toujours un bonheur de voir comment ça dialogue, ça crée un espace, un nouvel espace. Et je me rends compte à quel point j'aime cet homme et son univers, et à quel point, en plus il est adorable, il vient souvent se greffer à des projets comme ça, il vient nous accompagner sur des tas de choses. Et on a un projet de spectacle avec Benoît, avec Bruno, sur Jules Verne d'ailleurs, où on essaiera encore une fois de plus de mélanger dessin, musique, texte, entrelacer.
On a même fait deux adaptations radiophoniques des Cités obscures. Il y a eu La frontière invisible et La tour. Alors c'était très étrange puisqu'on part d'une histoire où l'image est absolument essentielle et on la transforme en une fiction où la musique joue un peu le rôle d'accompagnement qui était celui de l'image. C'est une forme tout autre, mais ça peut être une porte d'entrée dans la série. Au fond, quelquefois, je dirais, le résultat nous importe presque moins que le processus. Dans les petites expériences scéniques qu'on a eues, par exemple ce spectacle qui s'appelait L'affaire des ombres, qui a d'abord été théâtral, puis qui a eu une forme vidéo, l'important c'était vraiment de chercher ensemble, et là Bruno est un complice merveilleux, comme la plupart des gens avec qui on travaille, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas avec l'idée trop attendue de leur rôle. Bruno est vraiment impliqué dans le projet narratif, dans le projet scénique, et il ne se dit pas simplement « bon, ben moi je fais une musique,
faut être malléable.
Combien de minutes ?» Non, c'est comme le travail qu'un réalisateur peut faire avec un grand compositeur, quand un compositeur travaille avec l'image. Et on peut se souvenir de Bernard Herrmann pour Hitchcock, d'Ennio Morricone, d'Angelo Badalamenti, etc. De tous ces musiciens qui ont su vraiment jouer avec l'image et pour l'image, comme d'ailleurs l'image et le texte jouent ensemble sans un partage des tâches trop strict entre François et moi.
Bon, on sait que tu as, alors, tu es réalisateur de longs métrages, tu as travaillé aussi avec Raoul Ruiz, tu as écrit sur des réalisateurs. J'aimerais que vous me parliez de la relation qu'il peut exister entre le cinéma et les cités, ou même, à la limite, l'écriture, la séquentialité de la bande dessinée, si ce n'est qu'évidemment la mise en page.
Oh là là.
Modifie complètement l'approche.
Bon, ça, c'est une question qui hante beaucoup de journalistes. C'est l'idée, pourquoi on ne voit pas les cités obscures au cinéma. Alors, pour être franc, moi, je n'ai pas du tout le rêve de voir nos albums au cinéma. Je ne rêve pas de ça.
C'était plutôt en fait l'influence du cinéma dans les thèmes et dans la
oui,
mise en...
c'est vrai qu'il y a...
dans certains cadres.
Oui, oui, il y a du Orson Welles dans La Tour. On prend le personnage d'Orson Welles d'ailleurs, comme modèle pour Giovanni Battista. Mais il y a quand même quelque chose qui me trouble, c'est de hiérarchiser les choses et de penser que la bande dessinée serait comme upgradée ou comme elle trouverait une forme supérieure par une adaptation cinématographique. Ça a l'air de m'énerver.
Oui,
ça parce que moi, je trouve qu'une bande dessinée...
Et ça, je comprends.
Je trouve que quand on me dit « votre bouquin est inadaptable », j'ai un grand sourire. Parce que je me dis, bon, ben, peut-être que c'est vraiment une bande dessinée. Peut-être qu'on ne sait rien en faire d'autre.
Si on repart d'un de nos maîtres, Winsor McCay, donc l'auteur de Little Nemo, quand Winsor McCay se met à travailler pour l'animation, dont il est un des précurseurs, quasi l'inventeur, il fait d'autres choses. Très très vite, il s'éloigne de Little Nemo. Il va créer notamment Gertie le dinosaure, parce que c'était un personnage idéal pour l'animation. Je pense que si François collabore à un projet de film, ça a été le cas avec Raoul Servais, ça a été le cas de manière peut-être plus fructueuse avec Jaco Van Dormael.
Et Coppola
de façon plus éphémère, pour l'instant. On n'a pas encore vu le résultat. Mais... il fait autre chose, profondément autre chose. Et moi-même au cinéma, j'ai souvent eu recours à des formes documentaires, des formes assez simples, qui ne cherchent pas du tout à retrouver le foisonnement des cités obscures. J'ai adoré, par exemple, filmer certains dessinateurs au travail. On parlait de Taniguchi, ça a été le cas de Chris Ware, d'Art Spiegelman. Arriver à saisir le geste créateur, à dialoguer avec eux. Ça a pu être dans le prolongement des cités obscures, un film comme Le Dossier B, qui mélangeait documentaire et fiction. Donc ce n'est pas chercher à adapter, mais à tirer parti de quelque chose. Puis alors, on a quand même un avantage qu'on ne dit pas toujours par rapport à la bande dessinée. Il y a quand même un avantage extraordinaire, c'est que les projets auxquels on croit, on arrive toujours à les réaliser. On se met à un projet, on l'esquisse, on en parle à notre éditeur et on avance jusqu'au bout, sans pression multiple. Quand on a vu une aventure comme celle de Taxandria,
les enjeux financiers sont pas les mêmes.
On a vu un projet qui avait une singularité d'auteur très forte au début et qui, à force de voir son budget grossir et sa technologie se complexifier, a échappé un peu au réalisateur. Et donc c'est un danger. Et puis c'est aussi un travail de patience. Jaco Van Dormael a mis des années à monter un projet comme Mr. Nobody.
Et alors, c'est vrai que ce Mr. Nobody, je me mets totalement à son service, et c'est un bonheur d'ailleurs, d'entrer dans sa tête et d'essayer de comprendre ce qu'il attend, comment je peux l'aider. Et c'est une autre... penser, c'est une autre façon de regarder l'image et d'essayer de voir comment je peux aider ce film et comment j'en peux entrer dans la demande, dans l'horlogerie narrative d'un Jaco Van Dormael ou d'autres réalisateurs où ça n'a pas fonctionné parce que c'est très laborieux. Moi, j'admire les réalisateurs, le combat incroyable qu'ils doivent mener pour monter les films.
Mais Raoul Servais, donc, qui a réalisé Taxandria, me disait un jour que de toute façon, avec le recul, c'était un film qu'il... estimait largement inférieur à la majorité de ses courts-métrages. Je précise que Raoul Servais nous a quittés en tout début d'année. Oui.
C'est un
très très grand réalisateur
c'est
d'animation.
C'est un film superbe raté.
Oui, alors voilà, c'est un film qui est très très dérangeant parce qu'on ne peut pas dire du mal de lui parce que c'est absolument superbe, mais en même temps, on n'arrive pas à rentrer non plus. Non,
parce que la pression qu'il y avait sur les courts-métrages était beaucoup moins grande. Et donc, il était possible, en animation, avec ce style chaque fois différent qu'utilisait Raoul Servais, il était possible de monter les projets et que pour un long-métrage, très vite, on arrive à des contraintes. Notre univers des cités obscures... c'est pas un univers à vocation grand public. Il ne parle pas forcément à tout le monde. Il y a peut-être des morceaux qu'on comprend moins bien. Il faut aujourd'hui le génie et l'histoire d'un Miyazaki pour arriver à produire un film aussi original que Le Garçon et le Héron, un film magnifique, mais aussi labyrinthique.
Et encore, ça fait 15 ans qu'il dit que c'est à chaque fois
oui,
son dernier film.
Mais la liberté qu'il a pu conquérir, c'est vraiment un processus absolument extraordinaire et quasi unique. Sinon, le risque de formatage est très grand. Dès qu'on parle de cinéma, on commence à vouloir parler d'un élargissement considérable du public. Moi, je suis très heureux des bizarreries, des singularités des albums que nous avons fait ensemble, même peut-être de leurs imperfections. Voilà, c'est pas grave parce que chaque album a été fait avec sincérité. Le lecteur, la lectrice peut préférer tel ou tel ou rester extérieur à cet univers. Mais nous n'avons jamais subi de contraintes ou de censure ou de limitations, ni dans les objets, ni dans les thèmes, ni dans les techniques utilisées. Et ça, c'est quand même quelque chose d'unique que la littérature peut avoir aussi, bien sûr.
Oui, et d'ailleurs, quand je fais ce travail sur une station de métro, sur un aménagement ou une scénographie pour une exposition universelle ou pour un musée comme le Train World, il y a un ensemble de contraintes absolument phénoménales. La sécurité, le coût, la circulation, la compréhension. C'est une équation d'une complexité folle. Et j'adore, parce que en même temps, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la force de l'imaginaire dans l'ensemble de toutes ces contraintes. Donc, c'est garder la légèreté. D'ailleurs, souvent, les dessins sont avant. Et ils sont là pour éclairer dans les moments extrêmement difficiles qu'on passe pour faire atterrir ces projets. Parce que le Train World, c'est 10 ans entre la première fois où j'aborde le sujet et l'ouverture. Le musée du train à Bruxelles, 10 ans d'acharnement pour convaincre, et les dessins restent toujours le guide. C'est incroyable, les dessins, on y revient toujours. Comme pour la station de métro à Rémétier, ce sont les dessins qui sont là au début, et ce sont là qui, mine de rien, ce sont ceux-là qui vont permettre à un moment donné de revenir toujours à eux et à la vision qu'il y a eu. Et ça, c'est pour vous dire la force du dessin. C'est une force incroyable qui peut convaincre et qui parfois, dans les moments de doute et les longs tunnels qu'on peut avoir, quand l'argent, les problèmes de tous ordres nous tombent dessus, il y a quand même ce morceau de rêve dessiné.
Je vous propose justement, puisqu'on parle d'images, que l'on passe sur celle que tu m'as donnée.
Oui, enfin, on a vu beaucoup d'images.
Oui, mais du coup, celle-là, comme tu les as choisies particulièrement, je ne sais pas, François, si tu avais collaboré. Bon, alors, c'est vous deux. Du coup, vous pourriez, si on peut envoyer, s'il vous plaît, l'autre, enfin, passer sur... Voilà, super, merci.
Peut-être en plein écran, même.
C'est du plein écran, mais... Voilà, c'est du plein écran, d'accord. Mais du plein écran 4/3.
D'accord.
Ah oui,
vignette timbre.
C'est pas véritablement du plein
écran.
Oui,
c'est pas du plein écran. Oui, c'est vrai.
Quand on lit un livre, on est en plein écran. Hein. C'est étonnant.
Oui, d'ailleurs, je m'étais pas retourné complètement, ça fait mal au dos.
Voilà.
C'est amusant d'ailleurs. C'est un des paradoxes de la bande dessinée, c'est que dans des images parfois extrêmement petites, nombreuses sur la page, pensons à Jacobs par exemple, on a vraiment dans chaque case ce sentiment de plein écran. C'est quelque chose de tout à fait magique, je crois profondément lié à la bande dessinée. C'est la capacité de faire entrer des mondes très vastes.
On focalise sur une portion de page.
On focalise, et alors, évidemment on focalise case par case, mais on focalise en même temps sur la double page, et il se passe là quelque chose où on oublie absolument le format de l'image. On est vraiment exactement comme dans la même représentation qu'un film en 70 mm.
Dans son propre temps aussi.
Dans son propre
temps. Non mais clairement,
on l'oublie pas.
Le mécanisme de lecture de la BD m'a toujours fasciné, parce qu'en fait, on reconstruit aussi notre propre temporalité. On a toujours le sentiment qu'il y a finalement des plans, en gros, des cuts, l'équivalent de cuts cinéma, d'une case à l'autre, mais parfois, par exemple, Hergé, dans Vol 714, fait des travelling avant à l'intérieur de l'avion, et notre esprit ne se pose absolument pas la question, on ne se dit pas, tiens, il y a trois plans, on sait qu'il y a un rapprochement du point de vue. Et
mais sans, c'est vraiment mystérieux. Chez les grands auteurs de bande dessinée, on va avancer un petit peu, sans jamais... mimer le cinéma, je crois que l'imitation du cinéma... Là, par exemple, on entre dans la ville de Samarie, c'est vraiment le début des cités obscures, mais en réalité, c'est un mouvement de caméra à peu près impossible, une voix narrative qui se fait entendre et un personnage qu'on va mettre trois pages à découvrir.
Elle m'a donné du fil à retordre cette longue séquence, parce qu'effectivement, c'est... c'est comme une, effectivement comme un vol d'oiseau, et qu'il fallait que chaque moment corresponde, qu'on ait vraiment le sentiment que le bâtiment qui est à l'arrière devient le bâtiment de l'avant, et bien, comme ça...
J'en profite pour poser une question. J'ai toujours été assez fasciné par la typographie. En fait, on parle insuffisamment de la typographie.
Ah, ça, je suis bien d'accord.
Hein, on est d'accord.
Ah oui, oui. Alors, moi, j'adore.
Mais ils sont remarquables dans tout le cycle de la cité. Est-ce que tu peux, du coup, en dire un mot ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Personnellement, pour moi, le texte, c'est du dessin. Et j'ai du mal quand je vois une typo, ça va peut-être énerver certains dessinateurs, mais j'ai du mal sur les typos qui sont fabriqués par
ordinateur, qui sont directement tapés.
Oui, alors maintenant, il y en a qui sont plus malins quand même, qui les dessinent ou qui les arrangent. Mais quand même, quand on dessine le texte, on a un lien organique avec lui. D'abord, on se le rapproprie. Et puis, il va dialoguer. J'avais fait, à un moment donné, une petite conférence sur le lien entre lettrage et dessin. Et on peut faire l'exercice de mettre, par exemple, le lettrage de Maurice sur les dessins de Franquin. Eh bien, ça ne marche pas. Oui. Ou le dessin de Marchereau sur le... Et ça ne marche pas.
Mais on identifie, de toute façon, les typos de chaque auteur.
C'est une chose que Töpffer a compris tout de suite. Hein. Dans les premières bandes dessinées de Töpffer, dans les années 1830, il y a un lettrage qui peut sembler presque maladroit, comme le lettrage de Maquet pour assembler presque maladroit, et en même temps, il est profondément adéquat. Et puis, le lettrage, il est aussi susceptible de transformation, de déformation, d'agrandissement. Je me souviens, François s'en souvient aussi très bien, d'une longue discussion qu'on avait eue avec Will Eisner à Angoulême, où il nous poussait à donner parfois plus de volume à nos lettres, comme Franquin l'a fait d'ailleurs. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on était au cœur du regard sur la bande dessinée, et il ne parlait pas spécifiquement du dessin, mais de la manière de travailler le lettrage.
Et parfois j'en ai loupé, mais c'est vrai, des typographies de titres. Pour celle-là, j'ai fait appel à un typographe pour m'aider à trouver la typographie qui collerait. Et c'était un très grand typographe d'ailleurs, avec qui que j'étais allé voir, qui était en fin de vie, comme ça, mais qui m'a quand même sorti dans sa bibliothèque extraordinaire. C'est passionnant d'essayer de trouver la bonne typo pour coller à un univers comme celui-là. Et en fait, on voit le lettrage, il est partout. On ne peut pas le mettre uniquement dans le phylactère. Le lettrage, il s'introduit dans des tas de détails.
Oui, on peut penser à ce que fait Tardy, par exemple, avec un travail qui parfois pose des problèmes à la traduction. S'il y a une affiche, s'il y a une inscription, s'il y a un tag sur le mur, est-ce qu'il faut le considérer comme du dessin et dans ce cas-là, il reste, ou est-ce qu'il faut le traduire pour qu'on le comprenne? C'est très ambigu. Un extrait de journal dans une bande dessinée, c'est pas un extrait de journal qu'on a collé, c'est un extrait de journal qu'on a redessiné.
C'est quelque chose qui est très travaillé dans la bande dessinée japonaise aussi.
Oui, bien sûr, avec l'élégance d'une écriture verticale qui est déjà une écriture dessinée.
Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas et c'est curieux parce que aux États-Unis, il y a un prix Eisner pour le meilleur lettrage.
Ouais,
c'est que c'est reconnu. Bon, alors je sais qu'il y a beaucoup de prix Eisner en fait, parce que il y a finalement le travail d'équipe qui fait que il y a le meilleur ancrage, le meilleur, etc. Mais la typographie est vraiment reconnue comme un élément capital.
Ouais. Mais François fait tout aussi. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas un lettreur, comme il y a eu à un moment pour Hergé, pour d'autres. Il n'y a pas un coloriste, c'est l'ensemble des choses, et même le tracé du bord des cases. C'est aussi important que le dessin lui-même. On le sent quand il est en harmonie, ou quand au contraire il est en rupture. Un tracé trop rigide de cases peut, d'une certaine façon, supprimer notre adhésion au dessin.
Et ça peut nous jouer des tours, parce que en fait, ce livre-là, on l'a beaucoup appelé la Tovre.
Ah.
Et alors les gens venaient dans la librairie, ce que vous avez, la Tovre, et c'était toujours problématique. Donc je me suis rendu compte quand même qu'il fallait faire attention avec la typographie.
Les quadras latines.
Ça c'est limite. Mais c'est ça qui est magnifique avec la typographie, c'est d'entrer dans l'histoire de la typographie.
Mais bon, il y a bien eu Bruxelles par rapport à Bruxelles. Oui. C'était difficile à prononcer. Peut-être que la Tovre, c'est une tour dans les cités obscures.
Oui. Mais c'est pour dire le plaisir d'entrer dans cette problématique. Et puis bon, le problème, c'est que les typographies. En fait, je hais les graphistes. Mais il y en a qui sont mes meilleurs amis, bien sûr. Mais il y a quand même des graphistes, il faudrait les...
Les bons.
Oui.
Il y a des lois, chômage.
Hein. Oui. Alors, bon, enfin... alors, tant qu'à faire, je préfère mes défauts.
Les enfermer dans une prison du Piranès, oui. La première case, puisque là, on fait.
Au moins.
Je parlais de référence de mon passé.
Oui, oui.
On a eu une expérience magnifique avec Philippe Guelmetti pour Le retour du capitaine Nemo, donc quand même, saluons-le au passage.
Et bien d'autres. Non, il ne faut pas tous, mais il y a quelques exceptions remarquables.
Ce qui arrive, c'est des gens qui disent parfois pour tel festival, on adore votre travail, on prend une de vos images, et puis. On fait quelque chose, une composition, on rajoute tellement d'éléments qu'il ne reste rien de l'image. Parfois, l'élément clé du dessin a été recouvert par les sponsors ou je ne sais pas. Alors c'est assez bizarre parce qu'on dit qu'ils sont venus vers une image et finalement, le résultat qu'ils proposent est une destruction.
Mais ça, c'est une conférence que j'aimerais beaucoup faire. C'est sur comment on peut foutre en l'air un dessin. C'est extraordinaire, extraordinaire. Il y a des mécaniques où vous venez, qu'est-ce qui lui est passé par la tête?
Alors,
parce que beaucoup de graphistes pensent les dessins comme des fonds.
Ah oui, c'est-à-dire,
ça pourrait être n'importe quoi.
Je peux répondre en partie à ta...
Tu es graphiste?
Je l'ai été pendant 15 ans, ça tombe mal. Et alors, mais pour le...
C'était donc toi.
Mais pour le long métrage, pour la pub, etc. Donc, et alors, on peut tous faire des conneries, certes. Mais généralement, c'est qu'en fait, on n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire que si... Non, mais là, vraiment, j'assure. Quand tout le monde te dit, mais non, attends, il faut vraiment coller complètement la typo à gauche. Non, il faut la mettre là. On peut pas dire directement non parce que c'est un peu de la merde. Et si on refuse, on dit bah non mais là c'est pas possible. Là vous dans ce cas vous avez pris la mauvaise personne ou je ne sais quoi. C'est sûr qu'on n'est pas repris la fois suivante et on s'est planté une boîte, un client. Donc
j'ai eu un cas intéressant l'année dernière. C'était l'exposition Chris Ware au Centre Pompidou.
Les trucs d'agence c'est souvent ça quand même.
Il a demandé le cahier des charges, les contraintes. Alors on lui a dit mais voilà vous nous donnez votre dessin et puis on va coller dessus nos éléments typographiques. Il dit bah non alors je fais pas l'image parce que pour moi et quand on voit le travail de Chris Ware, c'est la lettre et le dessin sont totalement intriqués. Alors il a dit mais je vais redessiner tous vos éléments, le logo, etc. comme il le fait pour le New Yorker. On dit oh là là mais ça c'est pas possible, on a jamais fait ça, c'est la porte ouverte, vous comprenez Monsieur Ware, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et alors il a dit bah, peut-être vous pourriez quand même demander à votre président. Je vais vous faire une esquisse et puis vous et donc il a réalisé cette magnifique affiche qui intégrait tous les éléments. Mais ça a été presque un scandale. Enfin, c'est à peine si on n'a pas appelé l'Élysée pour permettre la chose. C'était très bizarre quand même parce qu'on fait appel à un artiste qui est profondément. Alors là, s'il y en a un qui est un artiste texte, image et graphisme, il y a Jo Swart et lui qui sont vraiment des maîtres et on dit, ben non, vous nous donnez une image, et puis nous, on se débrouillera avec. Et c'était évidemment inacceptable. Mais c'est vrai qu'on le fait, nous aussi, et plein de décisions qui sont prises sont des décisions qui nous paraissent absolument essentielles, liées au... vraiment au contenu même du livre.
Là, du coup, c'est l'archiviste.
Oui, non, non, oui, c'est ça. Non.
Je demande. Hein.
Oui, non, c'est... Mais... chaque fois, c'est redessiné. Parce que je trouve que le fait d'avoir mes défauts, ben voilà. Alors, il y a des typos que je trouve que j'ai mieux réussi que d'autres. Hein. J'aime beaucoup celle de Bruzel, par exemple, qui est vraiment plutôt bien vue. Il y en a d'autres où je suis un peu passé à côté. Mais tant qu'à faire, je préfère les erreurs, les miennes, que ceux de certains que je déteste.
Au moins, on assume direct. Et puis bon, tu ne vas pas te suicider.
Non.
Ça. Tu peux tuer quelqu'un qui est vraiment naze.
Oui. Oui. Voilà. Tiens, justement. Bon, Bruxelles, je trouve que là, je l'ai bien eu. Bon, voilà.
Encore un truc un peu difficile à prononcer, hein, quand même. Déjà qu'on s'appelait Schuiten et Peters, c'était déjà pas facile. Mais en plus, c'est pas Bruxelles, c'est même pas l'orthographe anglaise, ni l'orthographe flamande, ni l'orthographe allemande. C'est un mixte de tout ça. Donc, peut-être qu'on
C'est un livre qui nous a valu beaucoup de problèmes. C'est juste intéressant de parler de ça parce que quand le livre est sorti, l'office du tourisme et les politiques de la ville étaient assez fâchés sur ce livre parce qu'évidemment, il donnait une image très, très, très dure de la ville, très, très négative, très, très, vraiment, c'était comme un pamphlet très noir. Alors que ça prend des choses de Bruxelles, mais ça prend des choses aussi de Paris, de différentes villes. C'est un mixte, d'ailleurs. La fameuse, là, c'est tiré d'éléments français, d'ailleurs.
C'est l'hôpital Beaujon.
Voilà, exactement.
Et alors que ça entre dans Bruxelles, vous voyez, on complique un petit peu
voilà.
Les choses, parce que c'était plus un livre sur la folie moderniste qu'un livre seulement sur Bruxelles et la bruxellisation, même si c'est un phénomène qui nous a touchés. Et s'il y a quelque chose de Bruxelles dans toutes les cités obscures.
Et donc, on a eu beaucoup de difficultés. Et je me rappelle d'ailleurs même, le maire avait dit, on va faire un livre qui va montrer justement l'autre côté.
Alors l'autre côté. L'aspect positif. On va répondre. C'était formidable parce qu'on s'est dit des politiciens pourraient répondre par une construction urbaine, par un projet urbanistique. Ouais, ouais. Mais ils répondaient par une BD, mais une BD de commande, donc qui n'avait pas été animée vraiment par la même passion. Et puis il fallait montrer tout ce qu'il y avait de positif. Du coup, le livre a été beaucoup plus mince.
Ça devient presque
beaucoup plus mince.
Et puis ça devient un outil de propagande, en fait.
Oui, c'est un livre de propagande. Oui.
Mais finalement, il y a eu quelques années plus tard un circuit touristique qui s'est créé sur les traces de Bruxelles et du dossier. Donc là, on s'est dit que finalement, on ne nuisait pas totalement au tourisme, enfin, qu'ils n'étaient pas effondrés.
Rappelez-moi l'orthographe de Paris dans les cités.
Oui. Bah, c'était un Paris un petit peu différent.
Avec un H, avec un Y.
Voilà.
Et on réfléchit sur Nantes, on ne sait pas encore très bien comment on va le prononcer.
Mais c'est le plaisir de jouer avec des signes d'une ville, des signes de la réalité, sans qu'on soit obligé de copier littéralement telle ou telle époque, tel ou tel aspect.
Oui. On va peut-être, comme il reste 6 minutes, donner la parole au public. Donc on peut rallumer légèrement la salle et faire circuler un micro ou deux.
Il y a un bras, je crois. Il y a des bras, il y a des micros, mais les deux ne concordent pas pour l'instant.
Bonjour. Alors, merci pour les cités et pour cette conférence qui sont toutes les deux passionnantes. J'ai deux questions. La première, très rapide, mais c'est la plus importante. Comment s'appelle notre magnifique ami à voile?
Alors, Benoît va répondre.
Alors, écoutez... Je ne comprends pas, on est tous habillés.
Écoutez, il y a une chose amusante. C'est qu'alors que nous étions en train de travailler au retour du capitaine Nemo, et François a nommé son jeune chien, je crois que c'était l'année des U, c'est ça, Ulysse. Or, le tout premier Nemo de l'histoire, par bien des côtés, c'est Ulysse confronté au cyclope qui lui demande son nom et qui lui dit « je suis personne ». Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard, même ce chien, ce... digne compagnon inséparable de François, participe, il se montre d'ailleurs, il se rend compte qu'on parle de lui,
qui est là.
Sous vos applaudissements, participe de la logique profonde de cette nouvelle histoire.
Merci. Et du coup, ma vraie
question...
Il est
très jeune, il y a encore une notion un petit peu floue du public, mais il cabotine un petit peu déjà.
Mis à part les maîtres en bande dessinée, qui vous lisez aujourd'hui? En contemporain, qui vous nous... Alors, ce n'est pas une question facile, mais qui vous nous recommanderiez?
Ulysse.
Écoutez, il faudrait vraiment un deuxième débat. On est loin de lire tout ce qu'on voudrait lire, mais on a des admirations extrêmement éclectiques. Dans les conférences que j'ai pu donner l'année dernière au Collège de France, j'ai évoqué beaucoup d'auteurs. François, dans une interview récente, citait Émile Ferris, et moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Nous aimons des choses qui ne ressemblent pas toujours à ce que nous faisons. Des œuvres qui font reculer les limites de la bande dessinée. Et je pense qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui et qu'on ne les voit pas toujours assez.
Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Est-ce que vous avez remarqué que parfois, en fait, on se prend les chocs esthétiques les plus importants d'œuvres que l'on imaginait justement pas possibles parce qu'elles n'appartiennent pas à notre univers?
Je crois que beaucoup d'auteurs aiment des œuvres extrêmement différentes de celles qu'ils produisent. Et nous pouvons aimer, par exemple, des œuvres de comédie, alors que c'est peut-être pas la première
caractéristique
qu'on associe à notre travail. Voilà, souvent, les auteurs aiment moins les choses qui leur ressemblent, qui leur semblent très proches.
Je ne sais pas si on a bien répondu.
Alors, il y a le temps pour une ou deux autres questions.
Bonjour, ici. Je vous remercie profondément pour les cités obscures. Je voulais parler de perméabilité entre vos différents mondes imaginaires. Vous avez parlé d'univers, de cycles, on pourrait parler de fiction, de territoire, je ne sais pas. J'ai découvert par ce qui n'est pas une bande dessinée, mais Les Mers Perdues, le travail de Jacques Abeille. Et je ne peux m'empêcher, j'ai lu plusieurs Jacques Abeille par la suite, et je ne peux m'empêcher de les lier dans ma tête, d'une certaine manière, à l'univers des cités obscures. Et je voulais savoir si, de manière consciente ou non, vous liez comme ça des œuvres qui pourraient se répondre, en fait, avec votre cycle.
Alors, c'est formidable de parler de Jacques Abeille. C'est un écrivain que je trouve, que j'ai bien connu. J'ai illustré beaucoup de des couvertures de ses romans. Et puis, j'ai eu un choc incroyable en lisant les Jardins statuaires. C'est vraiment une œuvre très, très forte, avec un homme très émouvant. Oui, c'est vrai, on n'hésite pas d'ailleurs à citer, il y a le mot analogue, on cite énormément de titres et d'écrivains parce qu'on s'est nourri, d'eux, et on cite aussi des illustrateurs, les cités obscures, c'est vraiment, comment dire, construit sur des terreaux multiformes, en fait.
Et il y a parfois des échos étranges. Par exemple, c'était une joie de découvrir, en travaillant sur Jules Verne et le capitaine Nemo, qu'une influence secrète et forte avait été exercée sur le jeune Rimbaud, lecteur de 20 000 lieues sous les mers, qui un an après a écrit Le bateau ivre. Voilà des chocs et des échos qui nous parlent et qui ne relèvent pas évidemment du lien direct et explicite entre ce qui serait une littérature pour la jeunesse et la grande littérature. Et quand on sent qu'un écrivain peut être sensible à la bande dessinée, qu'un dessinateur est sensible à tel ou tel film ou telle sculpture, c'est vraiment formidable. Parfois la bande dessinée a souffert à une certaine époque peut-être d'être un monde un peu trop clos, et tout ce qu'on a fait nous, c'est aussi travailler dans le sens de l'impureté, des échanges, des croisements et des passages.
Une autre question ?
Merci. On m'a dit rapidement, moi j'ai découvert vos travaux en 3D à Paris en 1991, l'Opéra Bulle. Et ma question, savoir... vous n'avez pas parlé de ces expériences-là. Est-ce que, je crois que c'est aussi vos compétences, est-ce que vous en avez fait beaucoup? Est-ce que vous faites beaucoup d'expositions telles celles que j'ai découvertes, et après, bien sûr, vos œuvres écrites? Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu quand même, ce
oui.
que vous avez fait?
Oui, oui, ça me touche que vous fassiez référence à cette exposition à la Grande Halle de la Villette. Ça fait effectivement pas mal d'années. On a toujours été intéressé, Benoît, comme il l'a d'ailleurs juste avant dit, d'essayer d'élargir et de créer toutes ces passerelles possibles entre réel et imaginaire. La fameuse statue du Nautipoulpe qui va bientôt être en train de se construire, c'est un immense objet avec le sculpteur Pierre Mater, qui mélange un poulpe géant et le Nautilus en bronze, 7 mètres de haut, 10 mètres de long. L'expérience d'entrer dans les techniques de fonderie, ou l'expérience de mettre en 3D, l'expérience de construire une station de métro ou d'être dans la scénographie d'un musée du train, c'est en fait se confronter au réel et au regard le regard de quelqu'un qui tourne autour d'un objet, qui tourne autour d'une locomotive, et comment on les met en scène, et en fait c'est le même métier. Ça reste quand même raconter une histoire. C'est quand même prendre les gens par la main, sauf qu'évidemment c'est avec d'autres outils. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de différence en fait dans le récit qu'on veut faire. Alors évidemment après la forme et l'écriture change. Mais le désir d'émotion, de trouble, de rêve, il peut se faire avec un objet comme il peut se faire avec un dessin. Mais souvent, il y a un dessin avant.
Je suis désolé. Je suis obligé, parce que nous avons déjà légèrement dépassé, de clore cette table ronde. Donc merci
d'être venu.
Benoît et François d'avoir été présents.
Merci beaucoup. Nous serons à 4h30 à la librairie, et donc c'est une manière plus informelle de prolonger la conversation. Merci beaucoup.
Actu SF. Les podcasts.